VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, première réaction officielle du gouvernement après les combats d'aujourd'hui dans la capitale entre les forces de sécurité et des éléments armés identifiés comme appartenant à l'ex-rébellion ninja du pasteur Tata Ntoumi. Des affrontements surtout dans les quartiers sud de la capitale, généralement acquis à l'opposition. Le gouvernement accuse d'anciens miliciens de s'être infiltrés à Brazzaville et d'avoir attaqué une position militaire ainsi que 4 commissariats. Il annonce aussi avoir lancé des investigations sur les combats qu'il relie à la contestation de la réélection du président Sassou Nguesso par les opposants. Plus de détails sur les affrontements avec notre correspondant sur place, Nguela Ngoussou, au micro d'Idriss Fall.
Cette nuit, Brazzaville s'est réveillé sous les coups de feu, d'artillerie légère et des armes lourdes jusqu'à 5h du matin, 6h du matin. Les populations ne savaient pas de quoi il était question. C'était donc la piscose et c'est le matin qu'on s'est rendu compte que beaucoup de bâtiments différents de l'État qui ont été brûlés, les sièges de communes de Bakongo et de Makelekele, les commissariats de police de ces quartiers sud de Brazzaville, précisément le commissariat central de Bakongo qu'on appelle Angola. La situation s'est calmée, mais les populations continuent à fuir des zones où il y a eu des combats. D'après les premiers éléments que nous avons, on nous dit qu'il s'agit des éléments ayant appartenu à la milice ninja du pasteur Ntoumi. Donc ces éléments seraient venus donc s'attaquer aux éléments de la police uniquement. C'est pour ça que la plupart des commissariats dans la zone ont été brûlés. Cette information n'a pas été confirmée.
Nguela Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville. Nicolas Pidon a pu joindre le pasteur Tata Ntoumi en personne. Sa réaction aux affrontements d'aujourd'hui à Brazzaville.
Moi, je suis un politique, j'ai longtemps parlé, mais nous demandons d'abord l'implication de la communauté internationale. Sinon, il n'y aura pas de solution. Les jeunes qui passaient, ils ne tiraient pas sur la population, sauf qu'ils s'en prenaient aux policiers. Nous sommes à la phase de la contestation, mais la contestation peut se faire par plusieurs manières. Je ne peux pas condamner du moment où les gens qui sont peut-être en autodéfense, si c'est une action qui était purement vers les assaillants, c'est-à-dire qui sont les policiers, qui sont les assaillants, ils sont armés, et les 12 pros, c'est-à-dire les ex-ninjas armés par Ndengue, bon, on ne peut pas quand même tolérer ça.
Est-ce que vous craignez un retour de la guerre au Congo-Brazzaville?
Ben effectivement, il faut craindre ça. Mais pourquoi la communauté internationale ne s'implique pas? On se pose la question.
Quel est votre message à Denis Sassou Nguesso?
Moi, ce que je dis au président Sassou, je lui avais dit qu'il n'allait pas changer la constitution et je lui avais dit qu'il devait aussi effectivement écouter le point de vue de tout le monde par la mise en place d'un gouvernement national et que lui, il est resté 32 ans au pouvoir. 32 ans au pouvoir, c'est trop. Pourquoi les autres ne peuvent pas aussi diriger ce pays? Moi, je pensais que c'était sa porte de sortie. Mais comme il n'a pas écouté, ben, nous allons nous tous constater ce qui va se passer. Vous savez qu'il a triché les élections, donc il doit se retirer.
Le pasteur Tata Ntoumi, leader de l'ex-rébellion ninja au Congo-Brazzaville. Au Tchad, poursuite de la vague d'arrestations de responsables de la société civile après les 4 leaders incarcérés depuis bientôt 2 semaines. Un 5e vient d'être interpellé ce lundi par la police judiciaire, à savoir le docteur Albissati Saleh Alazam, un porte-parole de la coalition Ça suffit. Ça suffit et la coalition Trop c'est trop ont dénoncé aujourd'hui cette campagne contre la société civile et affirment maintenir la marche pacifique de demain, mardi 5 avril. On écoute Bertrand Solon Ganjei, un des porte-parole de Ça suffit.
Eu égard à la situation sociopolitique actuelle du Tchad, la coalition Ça suffit informe l'opinion nationale et internationale que l'un de ses porte-parole en la personne du docteur Albissati Saleh Alazam a été convoqué ce matin à 8h à la police judiciaire. Cet état de fait confirme la volonté du gouvernement de mettre terme aux valeurs démocratiques au Tchad. La coalition Ça suffit est indignée par cette attitude tendant à museler la population dans ses aspirations légitimes. Nous demandons la libération sans condition de nos porte-paroles, désormais passés de 4 à 5. Nous informons la population que la marche pacifique dite pour l'alternance démocratique des libertés d'expression et des droits de l'homme prévue demain 5 avril 2016 est maintenue. Nous réaffirmons le caractère pacifique de la marche. La coalition demande à la population de ne pas céder à la provocation de la police. Nous mettons en garde les forces de l'ordre contre toute répression des manifestants à main nue.
Bertrand Solon Ganjei, un des porte-parole de la coalition Ça suffit au Tchad.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nouvelle violence au Burundi, 2 personnes y ont été tuées dimanche soir et 4 autres blessées dans le sud-ouest du pays. 5 membres d'une même famille ont également été blessés dans la région centrale. Des attaques dont on ne connaît pas encore les mobiles, mais elles interviennent après une relative accalmie ces derniers temps dans le pays, déstabilisé depuis la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, contesté par l'opposition burundaise. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Des gens armés, pour le moment non identifiés, ont mené dimanche soir une attaque armée dans un bistrot appartenant au conseiller communal de la colline Gitaramuka, en commune de Burambi, dans la nouvelle province de Rumonge, au sud-ouest du Burundi, selon l'administrateur de la localité, Madame Adélaïde Ndouimana. 2 personnes sont mortes au centre de santé de la place, parmi elles un catéchiste de la paroisse et une maman. Son enfant de 2 ans et 3 autres personnes, dont le chef de poste, ont été blessées, certaines grièvement. Il y a une semaine, dans la même commune, une autre personne avait été tuée par des hommes armés qualifié de terroriste par les autorités burundaises. Des dégâts matériels importants ont été signalés par l'administration. Par ailleurs, selon l'administrateur de la commune Mutaho, en province de Gitega, au centre du Burundi, Denis Niyomuhanyi, une personne non identifiée a lancé une grenade dans une maison dont tous les membres de la famille prenaient le repas du soir. Ils ont été tous blessés et conduits à l'hôpital de Mutaho où ils reçoivent des soins. Ces derniers jours, une accalmie relative a été remarquée dans différentes provinces du Burundi. Plus de 400 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi la candidature contestée du président burundais pour un 3e mandat. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Sénégal, 2 détenus de la prison américaine de Guantanamo à Cuba ont été transférés au Sénégal, annonce aujourd'hui le Pentagone. Son communiqué précise que 2 détenus libyens, Salem Abdou Salam Guerebi et Omar Mohamed Aboubakar Majou Omar, ont été remis au gouvernement sénégalais. Plus de précision avec Reed Brody, directeur Afrique à Dakar de l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch, basé à New York.
Il y a 2 Libyens qui sont à Guantanamo depuis 14 ans qui ont été transférés vers le Sénégal. Comme vous le savez, le président Obama essaie de vider Guantanamo peu à peu. Et en fait, la décision du Sénégal d'accueillir ces 2 Libyens aidera beaucoup. C'est un geste humanitaire important. Ces 2 Libyens qui ont passé 14 ans donc sans jugement, en violation du droit international, sont désormais au Sénégal.
Reed Brody, directeur Afrique de Human Rights Watch. Après le départ des 2 détenus, il ne reste plus que 89 prisonniers dans la prison très controversée de Guantanamo à Cuba. Les secrets des paradis fiscaux dévoilés par l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation. Un travail réalisé par plus de 100 journaux qui ont épluché quelques 11,5 millions de documents couvrant une période allant de 1977 à 2005. Il s'agit d'un des plus vastes coups de projecteur de l'histoire du journalisme et parmi les personnalités africaines citées, le propre fils du président Denis Sassou Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso, la sœur jumelle du président de la RDC Joseph Kabila, Jeannette Désirée Kabila, ainsi que le fils de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Plus de précisions avec Jean-Roger Bion.
Hommes politiques, footballeurs, au moins 140 personnalités de premier plan sont épinglées. Parmi elles, des collaborateurs de premier plan du président russe Vladimir Poutine. Selon cette enquête, des associés de Poutine ont falsifié des paiements, antidaté des documents et obtenu de l'influence occulte auprès des médias et de l'industrie automobile russe. L'argent détourné atteindrait 2 milliards de dollars avec l'aide de banques et de sociétés écrans. D'autres figures politiques visées par l'enquête, la famille du président chinois Xi Jinping, le président ukrainien Petro Poroshenko, le premier ministre irlandais soupçonné d'avoir dissimulé des millions de dollars. Ce n'est pas tout. Le monde du football, déjà ébranlé ces derniers mois par plusieurs scandales touchant les dirigeants de la FIFA, n'est pas épargné. Les icônes Michel Platini et Lionel Messi figurent sur la liste. Ce plus grand coup jamais porté aux paradis fiscaux a documenté plus de 214 000 entités offshore impliquées dans les opérations financières dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde.
Actualité aux États-Unis maintenant, le bras de fer entre la Maison-Blanche et le Sénat américain sous la nomination du 9e jour de la Cour suprême devrait dominer l'actualité au Congrès cette semaine, alors que les sénateurs regagnent la capitale après 2 semaines de congé. 3 sénateurs sont d'ailleurs déjà venus à Washington pour s'entretenir avec le juge Merrick Garland, nommé par le président Barack Obama pour remplacer Antonin Scalia, l'un des membres les plus conservateurs de la Cour. Et pour terminer, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a réaffirmé qu'elle ne démissionnerait pas de ses fonctions à la veille d'une semaine décisive pour son avenir à la tête du plus grand pays d'Amérique latine. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.